Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Je suis très heureux de vous retrouver ce lundi, premier lundi même d'ailleurs du mois de juin. Nous sommes au 3, bien sûr, et il sonne 11h, c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Merci de nous recevoir pour ce premier numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Victor Bekoku Tomega était la mise en onde, Jérôme Dakouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. Uriel Enyang est là. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les Togolais partout où ils se trouvent dans le monde.
Bien passé le week-end.
Je remercie Dieu, tout se passe au mieux. Puisqu'on est en bonne santé, c'est l'essentiel.
Voilà. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Prompte guérison, rétablissement à tous ceux qui sont malades actuellement, qui sont en train de nous écouter sûrement sur les lits des hôpitaux, ceux qui sont certainement à la maison, ceux qui sont dans les taxis, qui sont en train de nous écouter, les ateliers. Nous vous saluons et merci aux mairies également qui ont fait un travail extraordinaire hier. Parce qu'il faut reconnaître qu'avec cette grosse pluie, il y a beaucoup de troncs d'arbres qui sont tombés sur les routes hier à Lomé. Mais vraiment, un travail d'urgence a été fait et cela a été dégagé et les voies étaient libres hier pour la circulation.
D'accord. Jacques, j'espère que tu as bien passé le week-end.
Oui, ça va. Le week-end était vraiment, il faut reconnaître que j'étais dans une réunion qui a commencé à 7h, qui a fini presque vers 17h. Et hier, j'étais à l'église. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Elie Gouka, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Ravi également d'être là ce matin pour débattre de tout ce qui est lié à l'actualité avec vous.
J'espère que tu as bien passé aussi le week-end. Hein?
Oui, le week-end a été pluvieux et donc on comprend tout ce que le doyen Djakoutou disait tout à l'heure. Beaucoup de courage aux autorités locales qui s'activent à aider les populations à supporter ces moments pluvieux qui ne vont même pas s'arrêter pour l'instant puisqu'on vient d'entrer surtout au sud du Togo dans la grande saison pluvieuse. Beaucoup de courage à chacun de nous.
Tout à fait, beaucoup de courage à chacun de nous. Ça ne fait pas du bien, ce moment alors de pluie, surtout que la capitale est sous l'eau, bien sûr. Enfin, c'est pour dire quand même qu'il y a de l'inondation dans pratiquement beaucoup de quartiers et qui ne donne pas, enfin, ne fait pas alors du bien aux Togolais comme habitants de cette localité, bien sûr, de Lomé. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour aux aînés et amis en studio.
Et toi, tu as bien passé le week-end? Tu étais avec tes fidèles?
Ben naturellement, à la Togolaise, on a passé le week-end. Après, bon, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur, il faut le remercier. Donc, c'est pas le pasteur Jacques
à la Togolaise
qui me démentira. Donc, naturellement, hier, on était à l'église et c'était très bien.
C'était très bien. Nous avons un invité, c'est M. Nouassan Edouard. M. Nouassan, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour à tous mes frères en studio ici.
Vous êtes responsable marketing Fibre Togocom. Vous nous venez directement alors de Togocom, bien sûr, et nous allons parler alors de la promotion réabonnement Fibre Togocom. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Alors, la promotion réabonnement Fibre Togocom est une campagne promotionnelle que Togocom a mis en place depuis le 8 avril passé et qui va se poursuivre jusqu'au 7 juillet prochain. Et c'est une campagne promotionnelle qui permet à Togocom de pouvoir récompenser ses fidèles abonnés sur le produit fibre de Togocom.
Alors ça va se passer comment? Et pour ces gens-là qui peuvent facilement participer, ou du moins les concitoyens bien sûr qui peuvent participer, comment ils vont s'y prendre?
Alors, le principe de cette campagne promotionnelle, c'est que tous les abonnés de Togocom qui ont une fibre, ils payent chaque mois un forfait mensuel. Alors, pendant la période de la promotion, tous les réabonnements qui sont faits via Timoni au travers de la syntaxe étoile 145 étoile 434 dièse permettent à tous les abonnés de Togocom de pouvoir participer au tirage au sort qui permettra de remporter les lots mis en jeu par Togocom. Je disais les tirages au sort parce que avec votre réabonnement mensuel, vous avez la possibilité de participer à deux tirages au sort. Le premier tirage au sort, c'est les tirages au sort hebdomadaires qui permettent de récompenser tous les abonnés qui se sont qui ont payé leur forfait mensuel via Timoni pendant la semaine concernée. Maintenant, à la fin du mois, on reprend tous ceux qui se sont abonnés pendant tout le mois et on opère encore une fois un second tirage au sort qui lui permet de remporter les gros lots mis en jeu par Togocom.
Alors, et vous venez alors de parler des lots et des gros lots même d'ailleurs aussi. Quels sont ces gros lots qui sont en jeu?
Alors, pour le tirage au sort hebdomadaire, les abonnés ont la possibilité de pouvoir remporter chaque semaine 10 lots. Ces 10 lots-là, c'est un téléviseur Smart TV écran séquence 5 pouces chaque semaine, 5 combinés téléphoniques chaque semaine et 4 abonnements de 1 an à la chaîne Netflix. Donc ça fait les 10 lots hebdomadaires. Un téléviseur, 5 lots de combinés téléphoniques et 4 lots de 1 abonnement d'un an à la chaîne Netflix.
Et donc ce serait quand même très important que les abonnés participent à ce jeu.
Oui, tout à fait. Chaque semaine, vous avez 10 gagnants qui sont tirés au sort et qui sont récompensés. Et à la fin du mois, il y a les gros lots de cette campagne promotionnelle. Les gros lots, c'est un ensemble meuble salon complet chaque mois, une table à manger avec 6 chaises chaque mois et comme dernier gros lot, une tablette iPad. Donc chaque mois, il y a 3 gros lots qui sont mis en jeu dans le cadre de cette campagne promotionnelle qui, je le disais tantôt, devait durer 3 mois. Du 8 avril passé au 7 juillet prochain. Donc nous avons encore un mois et demi. Donc la semaine prochaine, on va opérer le tirage au sort qui concerne le mois de mai. Donc ça va prendre en compte tous ceux qui ont fait au moins un abonnement courant le mois de mai.
D'accord. C'est vrai que pour ces campagnes, ou même d'ailleurs quand vous lancez vos jeux, et des fois il y a aussi des arnaqueurs hein, qui rentrent aussi en jeu et qui arrivent à séduire des gens, vos abonnés, en leur disant que non, ils ont gagné ci, ils ont gagné ça. Comment les abonnés doivent reconnaître la fiabilité de ceux qui les appellent?
Voilà, la question est très pertinente. Ce que Togocom a mis en place, c'est que uniquement le 888 pourra vous appeler pour vous annoncer votre gain. C'est le seul numéro que Togocom utilise pour appeler ses abonnés pour leur apporter la bonne nouvelle du gain de leur lot. Aucun autre numéro ne vous appellera. Si un autre numéro, autre que le numéro 888 de Togocom vous appelle pour vous annoncer un gain, sachez que c'est un arnaqueur et Togocom n'est pas impliqué. Et encore, autour du jeu, je rappellerai que la Lonato est l'entité responsable de tous les jeux de hasard sur le territoire togolais. Donc la Lonato est partenaire avec Togocom sur ce jeu-là et tous les tirages et toutes les remises sont supervisées par la Lonato. Il y a aussi le cabinet de Maître Aloy qui est l'huissier de justice qui suit la régularité des tirages, des remises, de tout le process qui est mis en place au cours du jeu. Donc le règlement intérieur, les lots qui sont distribués, les gagnants, toutes ces informations-là sont disponibles auprès du cabinet de Maître Aloy. Donc voilà les mesures que Togocom a mis en place pour la fiabilité des processus autour de ce jeu.
Et d'accord, ce sont des mesures qui rassurent hein, les abonnés. Alors, si vous avez aussi un mot pour rassurer les abonnés en ce qui concerne alors le jeu, pour les inviter surtout hein, à participer massivement à ce jeu, qu'est-ce que vous allez leur dire, Monsieur Nwosan?
Alors, Togocom, en tant qu'opérateur historique sur l'Internet au Togo, est présent toute l'étendue du territoire. Donc, c'est pour dire que cette campagne promotionnelle, c'est pour tous les abonnés, quelle que soit leur présence sur le territoire togolais. Nous avons déjà opéré des remises. Le premier gros lot, le salon Meuble Play, c'est un abonné de Kara qui l'a remporté. Togocom était à Kara pour cette remise-là. C'est juste pour dire que quel que soit votre emplacement sur le territoire togolais, vous pouvez participer à cette campagne promotionnelle et enlever les gros lots qui sont mis en jeu. La seule chose à faire, c'est d'abord de pouvoir faire le réabonnement. Vous payez votre forfait mensuel via Timoni. Il faut absolument que le paiement se fasse via Timoni. Pour ça, vous pouvez utiliser la syntaxe étoile 145 étoile 434 dièse et vous lancez l'appel. Ou alors, vous pouvez télécharger l'application Timoni de Togocom qui est disponible sur Play Store, vous l'installez et vous faites votre réabonnement via Timoni. Quel que soit votre emplacement sur le territoire togolais, vous serez mis directement dans le panier des tirages au sort, aussi bien pour les lots hebdomadaires que pour les lots mensuel. D'accord. Donc l'appel est lancé à tous les Togolais, quelle que soit leur présence sur le territoire togolais, pour qu'ils participent massivement à cette campagne promotionnelle, qu'ils tentent leur chance et je suis sûr qu'ils pourront être les prochains heureux gagnants de cette campagne promotionnelle.
Et pourquoi ne pas aussi remporter le gros lot hein, de cette campagne, comme vous le dites. Merci beaucoup, M. Nwosan Edouard, d'être passé dans cette émission.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes responsable marketing Fibre Togocom. Merci d'être passé, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous revenons alors dans cette studio, dans cette émission Club de la Presse, alors de ce lundi, et nous faisons un clin d'œil hein, à nos amis qui sont dans le Bas-Mono, puisque nous sommes relayés aussi par Radio Mokpokpo depuis le Bas-Mono, bien sûr. Alors, Jacques, vous avez une petite question alors pour notre invité?
Pas une question.
Ah, d'accord.
Bon, vous êtes les prix, par exemple, qu'ils déploient pour donner aux abonnés, souvent qui gagnent à ces jeux, pourquoi ne pas consacrer cet argent pour nous diminuer les frais de communication? Parce que nous tous, on n'a pas l'opportunité de jouer à ces jeux, de remporter les lots. Pourquoi ne pas se consacrer plus à la diminution des prix de communication, du tout temps de se donner à ce jeu, il faut jouer avant de gagner, et tout ça, les gens jouent pas une fois, pas deux fois. Il faut que la machine tourne avant que les gens ne gagnent. Je crois que cet argent...
Mais il y a des gens qui gagnent quand même.
Je lui dis, mais cet argent qu'ils investissent en attendant par exemple les meubles, ces voitures-là, cela pourra permettre quand même à diminuer le prix de nos forfaits que nous achetons et qui ne fait même pas quelques secondes. Puis ils ramassent ça encore et on rachète.
D'accord, Jacques, merci. C'est une doléance.
Oui.
Monsieur Noisa, vous voulez répondre,
oui,
c'est ça?
Oui, non, j'allais simplement dire que les campagnes promotionnelles Togocom, avant tout, ce n'est pas l'objectif. C'est de pouvoir amener de la joie et du plaisir à nos fidèles abonnés. Le prix des stations étant fixé, les abonnés connaissent le prix de ce qu'ils aident. Alors, ces campagnes promotionnelles sont plus. C'est parce que Togocom a fait une promesse qui est d'être, c'est la promesse de proximité.
D'être plus proche alors
d'être
de ses
proche
abonnés.
De ses abonnés. C'est une promesse que nous avons faite et chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous faisons en sorte de pouvoir démontrer à nos fils abonnés que Togocom tient à ses promesses. Togocom veut être proche de ses abonnés. C'est pour ça que vous verrez depuis le début de l'année, il y a plusieurs de ces campagnes promotionnelles qui sont lancées pour amener de la joie, du plaisir à nos fidèles abonnés. En sus de la prestation de service qui leur est fournie pour le prix qu'ils payent. C'est un plus.
C'est un plus. Merci beaucoup. Oui, nous n'avons quand même pas fait un débat, Uriel, là-dessus. Merci beaucoup, monsieur, d'être dans cette émission. Nous aurons quand même d'autres moments également pour faire du débat autour de cette question. Il n'y a pas de... merci beaucoup, monsieur, nous serons passés dans cette émission.
Merci beaucoup.
Oui, nous allons commencer cette émission avec du reboisement. Reboisement, nous savons très bien que depuis le samedi dernier, le 1er juin, il a été lancé la campagne nationale alors de reboisement. C'est quand vous vous souvenez quand même que déjà depuis 1977, il y a la journée de l'arbre qui a été initiée, cette journée qui est célébrée, où à partir de 2021 déjà, c'est plutôt une campagne nationale de reboisement. Et cette année, 2024, il a prévu 20 millions de plants qui seront mis en terre. Pour la journée alors du 1er juin dernier, c'est 2 millions de plants, justement 2 millions de plans qui ont été mis en terre, et c'est toute une mobilisation totale de la part des autorités togolaises et aussi des institutions, de différentes institutions bien sûr. Uriel, on pourra dire que pour ce qui concerne le reboisement, ça doit être vraiment une mobilisation nationale.
Non, bon, je sais pourquoi pour ce qui concerne uniquement le reboisement. Dans tous les contextes, ce qui est positif, il faut que la mobilisation soit dans son ensemble positif. Vous savez, cette histoire de reboisement est un peu compliquée. On nous dit de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Lorsque vous faites l'écule, le chiffre que vous trouvez apté par an est un chiffre presque impossible.
Que c'est 100 millions par an.
100 millions par an, ce qui est pratiquement impossible. Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut.
Est-ce que ça nous dit que c'était une ambition de trop?
Non, bon, ceux qui ont fait la proposition, comment la décision est sortie, ce sont des experts. Maintenant, il y a eux de nous dire qu'ils ont déployé les moyens qui étaient destinés au reboisement sur d'autres secteurs. Sinon, ce sont des experts. Je me dis qu'il y a eu de l'expertise au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Avant de convaincre l'ensemble du Conseil des ministres, vous rappelez, à nous dévoiler cet ambitieux programme. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est presque impossible. Mais on ne va pas se décourager. Il faut planter ce qu'on peut planter et l'entretenir. C'est ce qui est important. Moi, j'ai toujours dit, si vous plantez seulement 10 plants, vous mettez 10 plants en terre, vous les entretenez, vous seul, vous avez 10 plants. Si on multiplie 8 millions de Togolais par 10, je pense qu'on a déjà atteint notre objectif. C'est si simple que ça. Et puis aussi, pour planter, il faut avoir de l'espace. Tout le monde n'en a pas. Si tu as de l'espace, il faut avoir des plans. Tout le monde n'en a pas. Donc, toutes ces dispositions-là, si le ministère en charge de l'environnement veut bien contribuer à l'atteinte de des objectifs de 1 milliard de plans d'ici 2030, il va falloir réétudier, revoir la stratégie de reboisement pour qu'on puisse... Mais l'autre souci, c'est que tu ne sais pas trop de temps sur la journée de reboisement parce qu'on n'a jamais eu vraiment des chiffres exacts. Cette journée, puisqu'on parle de campagne de reboisement, ce n'est plus la journée de reboisement.
Non, ça couvre toute l'année.
Ça couvre toute l'année. Et vous n'avez jamais obtenu un bilan à la fin de l'année pour qu'on vous dise que par préfecture, on a pu effectuer le travail lié au reboisement. C'est ça même un travail scientifique, professionnel et efficace. Ce qu'on n'a pas de ces bilans, on n'a pas de cette information à notre disposition. Je ne parle pas de disposition des médias, de disposition de tous les Togolais. C'est plus compliqué. Lorsque vous avez un projet du genre, à la fin de chaque année, on doit avoir un bilan. Cette année, nous avons pu faire ceci par rapport à notre vision. Nous nous trouvons dans des difficultés. C'est simple que ça. Mais lorsqu'on n'a pas de ces informations et nous continuons, voilà, dans le vide, c'est un peu compliqué. Chacun de nous, depuis qu'on était au cours primaire, vous vous rappelez comment on nous faisait planter les arbres. Aujourd'hui, si vous retournez chez vous, vous serez très content de voir la verdure qui entoure l'école primaire où vous avez fréquenté. Je trouve même que les dispositions étaient plus adéquates que ce qu'on nous présente aujourd'hui, parlant de 1 milliard d'arbres.
D'accord.
Maintenant,
rapidement,
ce que nous n'allons pas oublier, c'est-à-dire que la plupart des 56 600 km² sur quelle superficie devons-nous planter les 1 milliard d'arbres? Et ces superficies appartiennent à qui? À l'État ou bien ce sont des propriétés? Ça aussi, c'est une grande question. Si on doit effectivement planter 1 milliard d'arbres en 2030, je pense que des propriétés privées seront récupérées par l'État ou que des propriétés privées se décideront d'offrir gratuitement leur bien à l'État pour qu'on puisse le planter. Sinon, l'État n'a plus d'espace aujourd'hui pour mettre en place 1 milliard d'arbres. Nous sommes tous d'accord. Donc, ce sont des problématiques à gérer avant d'arriver à la campagne, avant de réussir à la campagne nationale.
D'accord. Merci beaucoup, Uriel. Jacques, c'est vrai que nous étions la semaine dernière avec Dr. Rama Touton, elle est la directrice des ressources forestières au ministère de l'Environnement. Elle nous a présenté un bref bilan sur ce qui se fait. Mais on comprend tout simplement que, alors que Uriel a dit, d'ici 2030, on ne peut pas atteindre alors un milliard de plans à mise à terre. À mettre en terre, finalement, ça veut dire que cette ambition a été de trop.
Non, je crois qu'il faut toujours commencer par quelque part. Même si on ne va pas atteindre le nombre escompté par rapport à ce que nous voulons, c'est que quelque chose quand même se fait déjà sur notre pays. Le vrai problème aujourd'hui, il est vrai qu'il faut planter les arbres. Il est vrai également de penser à cette population. Comment cette population fait dans la cuisson des aliments? Parce que si le gouvernement nous invite, le ministère de l'Environnement nous invite à planter les arbres, c'est bon. À côté de ça, comment les bonnes femmes, comment nos mamans, nos sœurs font pour préparer à la maison? Parce que, quand vous prenez le prix du gaz, mais c'est un luxe pour certains. Quand vous parlez du gaz butane, à certains, les gens se posent des questions, c'est quoi le gaz? C'est vrai, mais quand vous allez vers l'intérieur du pays, les mêmes arbres qu'on plante, c'est les mêmes qu'on coupe pour faire du charbon, pour faire également le bois de chauffe dans les foyers. C'est vrai, il faudrait que le gouvernement puisse y penser à ça. Parce que plus vous invitez la population à planter les arbres, la population le font. Mais, à un moment donné, c'est la même population encore qui coupe ces arbres-là pour fabriquer le charbon, parce que le gaz coûte cher. Donc, une chose est de demander aux gens de pouvoir planter les arbres. Une autre chose est de pallier, effectivement, ce manque-là de population pour pouvoir cuisiner dans les foyers. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Pascal, l'exemple du Togo est une bonne chose. J'ai vu la fois passée le ministre Folly Bazi qui tenait une conférence de presse dans une forêt.
C'était à Notchin.
Ah, voilà, vous voyez la verdure, vraiment c'était bien. C'est vivant, quoi. C'est-à-dire que si dans chaque localité de notre pays nous pouvons avoir ces espaces, c'est une bonne chose. Mais moi je crois que ce qu'il faut faire, c'est bon de planter les arbres. Une autre chose est d'encadrer nos populations. Si nous voulons qu'effectivement on puisse avoir le nombre dont on a parlé tout à l'heure, il faudrait effectivement que le gouvernement fasse des efforts pour diminuer, par exemple, le gaz butane dans nos populations, pour que cette population-là puisse acheter ce gaz-là et s'en servir à la maison.
D'accord. Et Elie, c'est vrai que planter des arbres, je pense que c'est toujours une bonne chose hein, pour la population, parce que quand on prend le boulevard Niasingbe Yadema, même à côté alors du campus, je ne sais pas si vous passez par là chaque fois, mais vous voyez quand même cette fraîcheur qui vous atteint au moment où vous passez alors par là ou le long alors du boulevard.
C'est évident, Pascal. Quand vous arrivez à cet endroit, très souvent, moi, je disais, j'ai l'habitude de dire, tu te croirais à Palimé, dans une forêt de Palimé ou de la région des plateaux. Vous savez, ces arbres ont été plantés quand? Dans les années 77, dans les années 70-77. Et c'est à partir de cette année-là, 77, que le général Niasingbe Yadema a lancé la révolution verte aussi bien au niveau du reboisement qu'au niveau de l'agriculture. Et vous savez, après quelques années, nous qui sommes nés dans les années 80, on est arrivé à chanter une chanson en évé, Mireille Aglifan. On a senti, Uriel le disait tout à l'heure, qu'à l'époque, il y avait une certaine exigence, où il y avait des exigences par rapport au fait de mettre des plants en terre et de les protéger. Aujourd'hui, c'est bien vrai, on respecte la coutume de 77, du 1er juin 77, qui se poursuit avec la journée nationale, bien sûr, de l'arbre. Mais la grande question, c'est avoir un bilan de ce qui est fait chaque année pour pouvoir situer l'opinion. Et mettre également, ou créer un cadre d'encadrement. Ce cadre d'encadrement, c'est de permettre à ce que les arbres-là qui sont plantés ne soient pas coupés de manière, disons, illicite. Dans les années 77, 80, 90 peut-être, encore, on avait cette... on sentait quand même la présence des forestiers. À Blessojao, on sentait leur présence. Aujourd'hui, on a l'impression que les gardes forestiers, on ne les a plus. On ne les a plus comme il faut. Donc, il faut un encadrement. L'encadrement est très important. Autre chose que je voudrais dire, c'est que en dehors de la politique du reboisement, il faut qu'on ait une politique générale de l'environnement au Togo. La politique générale de l'environnement. Parce que les moments que nous vivons aujourd'hui, l'avenir de l'humanité ou du Togo, dépend de tous ces secteurs-là. Les moments d'inondation qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on subit aujourd'hui, on comprend aisément qu'il y a un défi énorme à relever sur le plan environnemental, sur le plan écologique. Et ces efforts doivent être mis dans un cadre bien ficelé et bien encadré pour pouvoir permettre aux citoyens de comprendre les enjeux.
D'accord. Didier, est-ce que vraiment les citoyens arrivent à comprendre les enjeux? Parce que nous avons l'impression que c'est lors de la journée hein, ou le lancement lors de la campagne seulement qu'on voit une mobilisation autour de la chose. Allez, les autres jours, c'est comme si alors cette journée n'a jamais existé et que allez, les citoyens ne sont pas mobilisés autour de la chose.
Tu as tout décrit. On a l'impression que certaines fois, les autorités pensent que l'essentiel, c'est de lancer une campagne et de ne pas faire de suivi et de ne pas faire de la mobilisation derrière, de ne pas faire même de la pédagogie au préalable qui permette véritablement aux populations et aux citoyens de comprendre la nécessité, dans ce cas d'espèce, de planter les arbres. Je pense que des fois... il n'y a pas d'adhésion comme il fallait parce qu'il ne suffit pas que quelques députés, quelques ministres, quelques autorités qu'on mette la caméra sur elle, qu'on mette les appareils photos sur elle pour dire qu'on a fait, on a lancé la journée ou la campagne de l'arbre, de plantation d'arbres ou de reboisement et que ça s'arrête là. Après, les autorités auraient donné le ton. Mais il va falloir naturellement que dans la base et dans le bas peuple, les gens puissent véritablement adhérer à cette politique-là et que chacun, peut-être, Uriel soulevait déjà un aspect assez important, c'est où est-ce qu'on va planter tous ces arbres? Si les populations déjà ne se sentent pas concernées par ce que vous faites, vous allez planter les arbres où? C'est peut-être que de mobiliser des gens Mais après, en un moment donné, ce problème-là va se poser. Parce que si j'ai mis deux arbres chez moi sur 2 ans, la troisième année, je vais mettre où? Voilà, justement, il faut expliquer encore et mobiliser, faire un travail de pédagogie derrière pour que des gens se sentent mobilisés. Après, le samedi, des gens ont planté quelques arbres ici et là. Vous avez vu quelqu'un planter un arbre un dimanche ou ce lundi-là, vous voyez encore quelqu'un en train de faire quelque chose.
Donc, c'est fini.
Non, mais j'ai l'impression que ça va s'arrêter là. Et après, peut-être si le gouvernement ou les autorités ont eux-mêmes d'autres projets qui leur permettent peut-être d'aller sur d'autres espaces pour aller continuer, ça va, peut-être ils vont continuer. Mais dans la masse, ça va s'arrêter là. Et Jacques également souhaitait quelque chose d'assez fondamental. Moi, j'ai vu le chef de l'État participer à ce sommet-là de Paris sur la question propre. C'est déjà une bonne initiative, mais si nous prenons les résolutions de ce sommet et que nous les opposons un peu à ce qui se fait chez nous ici, on verrait un peu de la dichotomie, parce que vous voyez dans les pays du Sahel, par exemple, autour de nous et tout ça, le gaz butane, le gaz de cuisine est très moins cher, absolument moins cher. Mais chez nous ici, le prix est peut-être fois 3, fois 4. À partir de ce moment-là, pendant que chez nous là-bas, tout le monde met le bois de chauffe, à Lomé, un peu partout dans nos maisons, tout le monde met le charbon de bois, et que, comme Jacques l'a dit, le gaz de cuisine, le gaz butane, soit encore le luxe même insolent pour la à la limite, et qu'on ne peut que trouver peut-être dans des cités, dans de grandes villas, ici et là, à partir de ce moment-là, on a beau planter les arbres, dans 5 ans on va les couper, dans 10 ans on va les couper, on fera un travail de Sisyphe. On va planter les arbres qu'on sait qu'on va couper peut-être dans les 5 ans à venir ou dans les 10 ans à venir. Ce travail de Sisyphe-là, il faut véritablement que les autorités travaillent à ce que la politique de reboisement ou la politique même de promotion de l'environnement soit une politique homogène qui s'accorde avec d'autres secteurs et qui n'ont pas de conséquences négative sur ce qui est en train d'être fait dans les années à venir. Sinon, on aura planté ces arbres-là pour un gros rien.
D'accord. Oui, Uriel, pratiquement, c'est comme si, quand on prend même d'ailleurs cette journée, telle que nous l'avons dit, hein, cette journée, quand les autorités lancent déjà la campagne, finalement, on n'écoute plus parler même d'ailleurs de reboisement tout au long de l'année.
Non, vous savez, moi, j'aime toujours la pratique. Disons qu'autour de cette table, c'est 5 préfectures réunies. Ça fait 5 préfectures. Que chacun de nous dise concrètement comment ça se passe chez lui en termes de reboisement. Qui consomme plus le bois de chauffe dans nos préfectures de ressort? Qu'est-ce qu'on utilise plus pour la cuisson? Soit c'est le charbon ou c'est le bois de chauffe. Si vous allez dans nos préfectures, qu'est-ce qu'on utilise? C'est le bois, c'est ce qu'on coupe pour tous les jours. Le reboisement, ce n'est pas le même. Hein. Laissez la mise en scène. Cette mise en scène, vous voyez des mères bien habillées, cravatées, et il sort devant les caméras, il met quelque chose et puis il recule dans son bureau. C'est une mise en scène. Le reboisement, ce n'est pas Lomé. Lomé n'est pas un désert. Nous avons chacun autour de sa maison au moins 2, 3, 4, 5, voire même 10 cocotiers. Si vous montez sur un bâtiment de 3 étages, vous regardez Lomé. Lomé ne souffre pas d'arbres. Le reboisement, c'est dans les zone
qu'on est la désertification.
Voilà. Ou dans les zones même d'exploitation agricole. Ouais. Ce n'est pas dans la capitale qu'on fait le reboisement. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Si vous prenez l'exemple que je venais de citer, dans la préfecture, dans nos différentes préfectures, la consommation du bois par an et le reboisement, la quantité du reboisement, elle est la dernière est déséquilibrée complètement. Je peux même dire que par rapport au souhait de Jacques, chez moi par exemple, l'usage du gaz butane est presque inexistant. Qui utilise le gaz butane? Qui convoie le gaz butane chez moi? C'est quelle société pour vendre ça à qui? C'est le charbon de bois et le bois de chauffe.
Donc là, c'est plus que du luxe allant chez vous.
Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de ce qui est disponible pour utiliser. Ce qui est disponible, c'est le bois. On n'a pas inculqué la notion de l'utilisation, de l'importance du gaz butane. Et si on l'avait fait, il faut aussi voir son prix. Est-ce que le niveau de vie permet? à un citoyen de chez moi de se procurer d'une bouteille de 6 kilos, 12 kilos du gaz butane et de l'utiliser et jusqu'à la fin aller charger encore. Tant qu'il a le bois à côté, il peut sortir même à 5 mètres, prendre son bois, revenir. Il prend à 5 mètres, il prend le charbon. Vous voyez, c'est ça la complexité de la chose. Le reboisement, c'est de l'autre côté, hein, c'est pas l'homme. Donc, ceux qui pensent que faire observer la campagne de reboisement ou la journée de reboisement, c'est à l'homme. Non, nous faisons du folklore, on sème des scénarios et ça ne donnera rien. Allons-y effectuer le reboisement dans les zones de production agricole, dans les zones menacées par les déserts. Et là, on apportera des solutions. Sinon, tout ce qu'on fait à Lomé, ce n'est pas ça.
Ah, d'accord. Et tout ce qu'on fait à Lomé, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Uriel. Je pense quand même qu'on va en arrêter là, par rapport surtout à ce débat. Nous allons parler maintenant d'autre chose. Parlons politique. C'est le plat de résistance, hein, de résistance de cette émission, bien sûr. Alors, le vendredi dernier, il y a l'ANC qui était en conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, ce qui est sorti comme information, c'est que l'ANC ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Bien sûr, Jacques, vous avez appris cela tout comme moi le vendredi dernier. Et déjà dans la soirée alors de vendredi, c'est plutôt Madame Brigitte Kafuya-Diamagbo-Johnson qui a organisé, enfin la DMP a organisé une conférence de presse hein, pour dire le pourquoi Madame Adiamagbo a voté contre le règlement intérieur. Et donc, c'est justement ce qui s'est passé. Alors, quand on prend surtout pour ce qui concerne l'ANC, est-ce que vous arrivez à comprendre ce parti hein, qui déjà était aux élections et il y a des gens quand même qui ont voté pour le parti et le parti a refusé alors de siéger.
Vous avez bien fait de dire que le parti a refusé. Certainement que l'ANC a ses raisons que nous ne maîtrise pas. Vous comprenez ? On ne force pas une fille ou bien un homme à épouser la fille qu'il n'aime pas ou bien l'homme qu'il n'aime pas. Si vous le forcez à le faire, demain c'est vous qui allez encore regretter que le couple était là, après ils se sont séparés, ou bien ils sont ensemble à la maison, mais que ça ne va pas. Donc je crois que le meilleur choix, si vous savez que le mariage là ne va pas conduire à quelque chose, le mieux c'est au début des relations de pouvoir se séparer. Et puis là tout le monde est quitte. Je crois que si l'ANC a fait son choix de ne pas aller à l'Assemblée nationale, l'ANC a ses raisons que moi je ne peux pas décrire ici. Je ne sais pas quelles sont les raisons de l'ANC, mais ce qui est important, ils ont fait un choix. Moi je respecte le choix. Madame Brigitte Adiamagbo-Johnson a fait le choix d'y siéger. Je respecte également le choix de Madame Brigitte Adiamagbo. Donc l'essentiel aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont à l'Assemblée nationale et ceux qui n'y sont pas, c'est que nous voulons que notre pays avance. Aujourd'hui, UNIRAP a 108, je crois. 108 députés.
Ou bien tu veux ajouter.
Donc, UNIRAP a 108 députés. Si vraiment ceux qui sont à l'Assemblée nationale peuvent œuvrer pour que nous, Togolais, nous puissions effectivement avoir hein, nos besoins basiques, satisfaire à nos besoins basiques, à nous avançons. Aujourd'hui, les besoins basiques du Togolais, c'est quoi ? C'est que, Pascal, si tu te réveilles, quand tu vas vers ton interrupteur, tu l'allumes, que tu puisses avoir la lumière. Si tu ouvres, par exemple, ton robinet, que tu puisses avoir l'eau. Nos enfants que nous mettons à l'école, que nos enfants puissent trouver quoi ? Du boulot. Lorsque tu sors avec ton vélo, ta moto est sur la route, que tu puisses bien circuler. Lorsque tu es malade, que tu puisses aller vraiment te faire soigner. Donc, je crois que ça, c'est les besoins basiques de l'homme. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'Assemblée nationale et ceux qui n'y sont pas, l'essentiel est que ceux qui y sont, qu'ils puissent prendre effectivement nos besoins et qu'ils puissent les satisfaire. Donc, pour couper court, moi j'ai dit, je respecte le choix de l'ANC. L'ANC sait pourquoi ils n'ont pas été. Brigitte Adiamagbo sait pourquoi elle est restée. Moi, je crois que la vie est ainsi faite. Hein. Vous savez, vous ne pouvez pas faire l'unanimité autour, par exemple, d'une dame que vous êtes en train de courtiser. Certains vous diront que cette dame, elle est belle. D'autres vous diront que non, cette dame n'est pas belle. Mais c'est à vous qui faites le choix. C'est vous qui saurez que la dame que vous courtisez, elle est belle ou pas. Donc, je crois que laissez le libre cours. Vous savez, la politique, c'est quoi ? La politique, vous pouvez recevoir des coups et vous pouvez également donner des coups. Donc, c'est comme ça. Donc, je crois que moi, je respecte le choix de Mme Brigitte Adiamagbo-Johnson. Je respecte également le choix de Jean-Pierre Fabre.
D'accord. Élie, c'est vrai que dans les propos alors de Monsieur Jean-Pierre Fabre la fois passée, hein, déjà à cette conférence de presse, il disait que non, ils vont pas accompagner cette immoralité, en parlant même d'ailleurs d'une nouvelle constitution, bien sûr, puisque déjà cette constitution avec le règlement intérieur, on a commencé même pas à mettre en quelque sorte en œuvre cette nouvelle constitution, parce que déjà le règlement intérieur prend en compte ça, alors que cela. C'est ce que Madame Brigitte Adam Agbo, lui, refusait et elle a voté contre alors ce règlement intérieur.
Oui, voter contre le règlement intérieur, pour moi, elle a ses raisons, mais je pense que l'opposition togolaise, comme on la connaît depuis, c'est à partir de ces moments qu'elle montre une certaine radicalisation ou une certaine adversité, pour ne pas dire que nous avons accompagné le gouvernement ou le parti au pouvoir. Et c'est ce qui se répète, à mon avis. Et Madame Adjamago, mais dis-moi, ne pourrait, même si tout le règlement intérieur était écrit avec un bon sens, avec les conditions ou les conditions normales qui favoriseraient le débat à l'Assemblée nationale comme il le faut, comme représentation nationale, elle, excusez-moi, elle ne pourrait jamais, à mon avis, au regard de tout ce qu'on connaît de l'histoire politique de l'opposition togolaise, elle ne pourrait jamais lui accorder son crédit. Parce que ça rentre également dans la visibilité et dans l'expression de son opposition au parti au pouvoir. Et donc, en termes de communication, elle en a fait donc un usage pratique pour montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'elle reste toujours opposante. De l'autre côté, pour ce qui concerne le parti ANC de Jean-Pierre Fabre, il faut dire que ça reste également une certaine stratégie. Stratégie pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous restons toujours opposants, quel que soit ce que nous avons pu gagner. Et c'est pourquoi ils estiment qu'ils ne vont pas aller au gouvernement, à l'Assemblée
nationale.
Mais autre chose qu'il faudrait souligner très rapidement, c'est que c'est des citoyens qui leur ont accordé leur voix pour les représenter à l'Assemblée nationale. À mon avis, même si c'est un député, il devrait siéger. Le débat à l'Assemblée nationale va se faire. Même s'ils sont en minorité, le débat à l'Assemblée nationale doit se faire. Laissez libre cours au parti au pouvoir, à l'UNI, à l'Assemblée nationale, d'être donc le poseur et le meneur du débat, sans avoir une certaine adversité, une certaine opposition dans les débats, pour créer un petit contre-pouvoir, au moins dans le discours politique. Pour moi, ce n'est pas du tout bien, cette décision de l'ANC, mais je la leur respecte. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un débat, quelle que soit la marée électorale, quelle que soit la position très forte du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, il faut créer ce débat. Et l'opposition a le devoir de le créer. Aujourd'hui, ils sont cinq à l'Assemblée nationale. Les cinq peuvent se mettre ensemble pour créer du débat. C'est de ça qu'on a besoin.
Oui, à quoi ça sert de créer le débat si votre position n'est pas prise en compte?
C'est bien vrai, mais cela aiderait à construire quelque chose.
D'accord.
Okay. À construire, à renforcer le débat démocratique. Pendant longtemps, quand il était à l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition, ils étaient majoritaires. Depuis 1994, l'opposition n'a jamais été majoritaire à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y avait des débats. Les débats ne prenaient pas... la majorité n'était pas favorable à eux, mais ils créaient quand même le débat au sein de l'opinion. C'est important, le
d'accord,
débat.
D'accord. Et Didier, c'est vrai que Dokun parle plutôt, par rapport à cette décision alors de l'ANC, Dokun parle plutôt alors d'une trahison de la confiance alors de ceux qui ont voté pour eux.
Bon, moi, je ne dirais pas les choses en ces termes. Vous savez, le domaine politique est un domaine hautement compliqué. Et vous savez, la question de la crédibilité des acteurs politiques est assez sensible. Et donc, il faut, à mon sens, savoir raison garder et ne pas peut-être faire ses analyses et ne pas peut-être dire ce que les autres pensent. Moi, ce que je pense, c'est ceci. J'étais au congrès de l'ANC en 2020, au sorti des élections, 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus. Et l'ANC, il y a eu une des résolutions qui a dit que l'ANC ne boycotterait plus jamais d'élections au Togo. Là, c'est, ils ont pris une résolution comme ça. Si c'est pas 2019.
Oui, je suis d'accord. Et je pense en 2020.
2019 ou 2020, avant quand même les présidentielles. Donc, ils ont pris une résolution et ils ont martelé dessus que l'ANC ne boycotterait plus jamais aucune élection au Togo. Donc, prenant peut-être, tirant peut-être le son de ce qui s'est passé de 2018 et tout ça, et des conséquences et des difficultés en termes de composition même ou de mise en place d'un certain nombre d'institutions où l'ANC n'était pas présente pour justement faire un contrepoids et créer le débat ou ne serait-ce que avoir les yeux là pour informer sa base et informer ses militants. Donc si on prend des résolutions pour participer à des élections, sinon à toutes les élections qui seront organisées, ma foi, la conséquence directe devrait être que quand on participe à une élection, on profite du fruit, quelle que soit la quantité ou quelle que soit voilà, ce qu'on a récolté, c'est quand même qu'on puisse faire quand même honneur à ceux qui ont fait confiance à ce parti-là en portant leur choix sur le parti. Jean-Pierre Fabre, l'ANC n'a pas été majoritaire au niveau de lors des élections locales, mais l'ANC est à la tête de quelques mairies.
Jean-Pierre Fabre est à la tête de la
mairie
de
Golfe 4,
la plus grosse des mairies.
Nous sommes, oui, certains ont dit que c'est la mairie la plus juteuse. On ne sait pas sur quelle base.
Non, c'est simple. Ça, c'est
ben
simple.
Voilà, l'ANC est à la tête de la mairie Golfe 1 et Golfe 6.
Oui.
Je crois même à Guenivé 5, c'est ça ? Sanguera.
Ouais.
Oui, Sanguera, ouais, c'est toujours ouais, ANC. Ouais. Donc, je pense, ils n'ont pas démérité. Vous voyez ce que fait Gomado là-bas. Vous voyez ce que Fabre lui-même il fait ici, avec des bilans toujours excédentaires. Vous voyez ce que fait Dagbovi là-bas.
Dagbovi,
autant pour moi là-bas. Ce n'est pas des gens qui ont démérité. C'est quand même un moment où des opposants ont pris la tête d'un certain nombre d'entités dans le pays et qui ont montré de quoi ils ont été capables ou ils sont capables. Ils continuent de le montrer d'ailleurs. Donc s'ils vont à une élection législative et que les élections se sont déroulées dans les termes où ils ont décrit, on a lu tous leurs déclarations, tout ce qu'ils reprochaient aux élections, ils ne sont pas les seuls. Tous les partis politiques d'opposition, y compris même d'indépendants, ont reproché un certain nombre de choses à ces dernières élections. Mais qu'à cela ne tienne, l'ANC a quand même été sacré un parti d'opposition à l'Assemblée et qui revient avec un député. C'est peut-être pas ce qu'ils espéraient avoir, c'est peut-être pas ce à quoi le parti s'attendait. Le parti a même fait appel à la cour constitutionnelle sur un certain nombre de choses, même si l'appel n'a pas été entendu. Je crois fondamentalement que ça aurait été quand même intéressant de voir un élu de l'ANC à l'Assemblée nationale, même si à titre d'observation, ne serait-ce que pour observer ce qui se passe là-bas, pour venir informer la population à la base et tout ça. On a tous dit la dernière fois, les dernières fois ici, que on n'avait pas eu le projet de constitution parce que il n'y avait justement pas des gens disposés à nous les donner. Peut-être que si on avait un élu de l'ANC là-bas, peut-être que d'autres tests à venir qu'on chercherait comme du sel dans la sauce, l'élu de l'ANC pourrait nous les procurer. Mais après, je veux quand même que nos amis, ça, nous faisons nos analyses. Au Togo, aujourd'hui, on a un test qui régit l'opposition. Et il faut quand même comprendre que l'opposition au Togo ne s'entend que par l'opposition parlementaire. N'existe au Togo une opposition que quand l'opposition est parlementaire, d'après la loi portant statut de l'opposition. Donc, tout ce qui est extra-parlementaire, là, c'est, bon, des manières entre les gens de se comprendre pour avancer, d'apaiser un certain nombre de choses. Mais si on voulait faire appliquer cette loi-là, il n'y a d'opposition au Togo que de l'opposition parlementaire. Et donc, je pense fondamentalement que chacun pourra peut-être assumer son choix. Nous respectons chacun des choix-là, mais nous faisons les analyses par rapport aux choix que des gens ont fait hier et les conséquences non naturelles qui devraient s'en suivre. D'accord. Mais j'attends de voir si l'ANC ne siège pas à l'Assemblée nationale. J'attends de voir si l'ANC participera aux élections locales de 2025 et si les élus locaux de l'ANC qui seront issus de ces élections-là vont quand même participer à la gestion des mairies un peu partout.
D'accord. Uriel, est-ce que vous avez pu comprendre cette décision de l'ANC et pour vous, quelle sera même d'ailleurs la conséquence de cela sur le plan politique, bien sûr?
Non, moi personnellement, je n'ai pas compris la décision du grand frère Jean-Pierre Fabre et de tout son parti. Je n'ai pas du tout compris parce que, vous savez, celui qui a l'information a le pouvoir. Comme Didier l'a développé tout à l'heure, même si l'ANC n'a obtenu qu'un seul siège, il était si important que le député de l'ANC qui devrait siéger aille siéger, ne serait-ce que pour être informé régulièrement de ce qui se passe. Ceci permettrait même au parti de se repréparer, de se repositionner. Aujourd'hui, si l'ANC ne siège pas, ils n'ont pas d'informations. Ce n'est pas un autre parti qui viendra leur fournir de l'information. Ils avaient juré qu'ils ne vont plus boycotter une élection. Ça veut dire que même les élections à venir, ils vont participer. Mais vous n'avez pas des informations sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Quelles que soient les conditions, si j'étais conseiller au premier responsable de ce parti, je lui aurais dit de laisser tout tomber et de faire siéger quelqu'un à l'Assemblée nationale. C'est très important. Lorsque vous n'avez pas les informations, votre parti est un peu bloqué. Imaginez, pour l'unique siège, aujourd'hui, celui qui sera chef de file de l'opposition n'a que deux sièges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Togo, c'est un peu facile pour quelqu'un de devenir chef de file de l'opposition avec tous les avantages qui vont avec. Si les journalistes s'entendent pour positionner 5 candidats, on s'entend bien, on bat une bonne campagne, on aura 4-5 sièges et la personne devient automatiquement chef de file de l'opposition et on avance. Nos 150 millions deviendraient peut-être 3-4 milliards. Si le siège là reste encore vide, on a essayé de faire les calculs pour un député salaire moyen, il n'est pas à moins de 145 millions pour ces 6 ans. 145 millions, alors que deviendra son salaire, ses avantages? Va-t-on organiser une nouvelle élection dans cette circonscription pour compléter le siège, pour que ça fasse les 113? Ou bien, qu'est-ce que cela va devenir? Que dit concrètement la Constitution? Si la Constitution n'a pas prévu quelque chose à cet égard, vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est vrai que le parti a ses raisons. Tout ce que nous sommes en train de faire ici comme analyse, le parti a ses raisons. Mais au-delà de tout, moi j'aurais souhaité que le parti siège à l'Assemblée nationale. On connaît toutes ces personnalités qui s'expriment très bien, dont les opinions impactent positivement la communauté. On aurait souhaité que l'ANC siège pour apporter un plus. Peut-être qu'en ayant suffisamment les informations, le parti va se mieux préparer. Mais aujourd'hui, s'il décide vraiment, alors qu'on connaît ce monsieur lorsqu'il décide, il a décidé. Alors que s'il décide de ne pas participer, vous voyez que c'est un peu compliqué.
D'accord, Jacques.
Non, je crois que, Pascal, si on était par exemple dans un débat où l'ANC n'avait pas encore refusé d'y siéger, bon, on peut émettre des hypothèses. Du moment où les gens ont fait un choix, ils ont organisé un point de presse et ils ont dit qu'ils ne vont pas aller. C'est ce que j'ai dit. Nous, on va dire quoi encore? Il n'y a rien à dire.
Ça veut dire que la décision a été mûrie?
Mais justement, tu as dit que j'ai écouté un peu Madame Isabelle Amegavi qui disait que il y a certains qui étaient pour qu'ils aillent.
Effectivement.
Mais il y en a qui n'étaient pas également d'accord qu'ils aillent. Moi, je crois que sûrement que c'est la ligne de conduite du parti qui a fait que finalement une décision a été prise. Vous voyez que depuis là, M. Apevon est en train de danser le tango.
Puisque pour le moment, on ne sait même pas s'il doit siéger ou pas.
Voilà. Je crois que la situation dans laquelle aujourd'hui Maître Apevon est pire que la situation de l'ANC. Oui, c'est pire. Je ne voulais pas être à la place de M. Apevon. Sûrement aujourd'hui, s'il faut qu'il dorme, il doit prendre les somnifères pour pouvoir dormir. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il suivre ceux qui ont boycotté? Faut-il aller pour qu'on m'accuse de ceci et de cela? C'est pour ça que je dis, la détermination d'un homme provient effectivement de sa capacité de dire oui ou de dire non.
D'accord. Et Eli, alors, quand on voit justement cet tâtonnement au niveau alors de l'opposition, est-ce que ça ne va pas que avantager le parti au pouvoir?
D'abord, le parti au pouvoir a tous les avantages à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais on a ce problème d'organisation au niveau de l'opposition. C'est bien vrai, le vin est tiré, il faut le boire. L'opposition, qui aujourd'hui a au moins 5 députés à l'Assemblée nationale, pourrait créer quand même une certaine coalition parlementaire pour pouvoir s'entendre et définir des lignes qui vont participer à un certain débat. Le débat démocratique, le débat à l'Assemblée nationale est le soubassement de tout ce qui est politique. C'est le débat qui construit le politique. Et donc, si aujourd'hui, l'ANC n'est pas à l'Assemblée nationale, à Pévon, on n'a pas encore, ne connaît pas encore sa position réelle, et alors qu'ils ont été au centre des débats politiques depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y aura un avantage de plus pour le parti au pouvoir. Parce que le parti au pouvoir n'aura pas de véritable adversaire ou représentant de l'opposition pour quand même mener un débat. Même si au cours du débat, ils n'ont pas été... ils n'arrivent pas à convaincre ou ils n'arrivent pas à influencer les débats à l'Assemblée nationale en leur faveur. Le plus important en politique, c'est qu'il y ait quand même débat et pour que les gens soient situés sur le fait que sur tel projet de loi, sur telle chose, il y a eu quand même une parole, un discours de l'opposition qui exprime quand même son opinion sur ces sujets-là. Mmh. C'est important.
D'accord. Oui, il disait...
Oui, moi, ce que je dis, c'est que le débat parlementaire, nous ne l'avons plus. Je ne sais pas pourquoi les politiques ont travaillé à ce que nous n'ayons plus ce débat. Mais vous voyez, l'Assemblée nationale d'avant 2018, quand ils étaient encore au Palais des Congrès ici, vous voyez des personnalités comme Isabelle Amé-Ganvi,
Jean Kissi,
comme Jean-Pierre Fabre lui-même, Maître Georges Lawson, un certain nombre de personnalités. Vous les voyez, indépendamment du choix politique qu'ils feraient à l'issue des travaux à l'Assemblée nationale, vous les voyez apporter quand même des contributions pour l'amélioration des dispositions législatives lors des travaux en commission ou même des travaux en séance plénière. Vous dites, mais le Togo a des gens. Et vous voyez des argumentations des uns et des autres, les apports que chacun apporte, mais vous avez, ça vous montre l'envie de devenir député et d'en apporter quand même comme ça. Mais depuis, on n'a plus ça. Moi, j'aurais peut-être aimé, comme les uns et les autres le disent, ils ont déjà pris leur décision, d'accord, mais une personnalité comme Isabelle Amé-Ganvi, c'est quand même une tête. On pourrait l'envoyer, juriste quand même, avocate. On pourrait l'envoyer et représenter le parti. Et un bon disciple de M. Favre et de l'ANC, elle pourrait quand même être les yeux du parti là-bas. Justement. Tout en apportant ses apports en termes de droit à des dispositions là-bas à l'Assemblée nationale, elle pourrait également continuer à alimenter et donner le parti en termes d'information. Pour quand même donner du poids à un certain nombre de meetings, parce qu'il y aura telle information, il y aura des informations et des éléments qui vont venir. Mais ils ont refusé et c'est assez dommage. Mmh. Mais je fais juste ce rappel que l'ANC a 9 conseillers régionaux qui ont été élus. Ces messieurs vont devenir quoi, eux, si les députés qui sont élus ou la liste où on a élu un député, on ne veut pas siéger. Que dit-on des 9 conseillers régionaux?
C'est également aussi ça une question très importante.
Il suit également des mêmes scrutins qui ont été organisés, bien que si c'est des élections régionales.
Tout à fait. La question est pertinente. Uriel?
Oui, la question est pertinente. À cela s'ajoute aussi le fait que aujourd'hui les députés sont considérés comme les grands électeurs. C'est maintenant qu'on a des parlementaires qui sont des tout puissants. Puisque c'est eux qui vont élire tel, c'est eux qui vont élire tel.
Il y a une nouvelle dimension politique.
Tout à fait.
Le pouvoir est renforcé.
Tout à fait. Moi, j'ai peur.
J'ai peur qu'à cette allure, ces gens-là ne prennent de nouvelles dispositions qui vont agir, impacter sur les communales. Parce que tout est possible. À cette allure, quand on constate, alors qu'aujourd'hui, c'est l'ANC qui, en termes de communes, c'est l'ANC qui gouverne la plus grosse partie du Grand Lomé. Donc, si ces gens-là se disent, mais tenez, si le monsieur a refusé de siéger, si le parti a refusé de siéger, on peut aussi l'énerver davantage en créant... Mais tout est possible. C'est pourquoi moi, j'aurais souhaité que l'ANC siège pour avoir de l'information et pour se préparer de mieux.
D'accord. Élie ?
Oui, c'est, tout à l'heure, je voudrais rappeler dans ce que disait Didier que en 2000, l'expérience parlementaire de l'ANC en 2018, avant de quitter l'Assemblée...
2013-2018.
Mais c'est pas... Il y a eu des contributions énormes de l'ANC que le parti majoritaire mettait quand même dans la cagnotte. Moi, j'ai eu tout ça là par des confidences des députés de l'époque qui sont issus du parti au pouvoir et qui ont exprimé ce plaisir d'avoir un débat créatif des contributions à l'Assemblée nationale qui venaient de l'opposition et qui les ont aidés à construire ensemble des lois, à mettre en place des encadrements juridiques qui rentrent dans l'intérêt général. Il le faut.
D'accord. Il le faut. Jacques ?
Non, moi, ma peur dans cette histoire, c'est que, vous savez, le pouvoir risque de corser encore les choses. C'est-à-dire que, avec ce qui se passe, certainement que le laboratoire est en train déjà de faire un travail. C'est-à-dire qu'avec le fait que l'ANC n'ait pas siégé, certainement qu'un laboratoire est en train de travailler quelque part pour voir, au cas où, désormais, si ce genre de choses se posaient, qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que dans tout ça, là, demain, c'est nous qui allons encore crier pour dire « Ah, on a sorti telle loi pour corser ici, pour faire ci ». Pour restreindre sûrement les libertés, mais peut-être que c'est nous qui avons prêté le flanc. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, en politique, tu peux donner les coups. Et toi aussi, tu peux en recevoir.
D'accord. Ouais, okay. Merci beaucoup, cher confrère.
Il faut quand même dire que si l'ANC ne siège pas, M. Fabre n'a qu'à savoir qu'il doit décupler, s'il veut, mais sextupler ses efforts pour 2025. Parce que sa position ou son poste de maire de Golf 4 est en jeu, était déjà en jeu, est maintenant très en jeu. S'ils ne veulent pas siéger, ils n'ont qu'à commencer à sextupler leur force pour 2025.
Ok, puisque je posais la question concernant les conséquences qui vont sortir même d'ailleurs de cette décision à Uriel tout de suite. Je pense que la réponse a été donnée aussi par Didier avec cette question qu'il vient de poser. Alors, rapidement, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs puisque nos auditeurs aussi s'impatientent de l'autre côté, hein, au bout des ondes. Alors, pour nous poser des questions ou du moins se réagir sur ces questions discutées ou des sujets discutés ici au Club de la Presse. Et donc, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi. Et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114. 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Didier, comment vous allez?
Bonjour le plateau.
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur Dacouti. Bon, c'est Didier, je suis là.
Oui, Didier, allez-y.
Oui, contribution énorme de l'ANC à la législature précédente. Didier, mais je vous en ai tout à l'heure. Oh, quel pays, le Togo. Aujourd'hui, on reconnaît la contribution de l'ANC dans la législature passée. De toute façon, nous sommes là pour juger. Bon, moi, je vois que M. Murel, maintenant, est devenu le grand stratège de l'ANC, alors qu'il a été l'un des profondeurs de ce parti. Si nous remontons rétrocassés de l'émission, on écoutait ce qu'il disait sur l'ANC, c'est pas ce qu'il va en dire aujourd'hui. Et puis, je voulais leur dire que l'ANC ne sont pas bêtes. Ils sont aussi intelligents. S'ils ont dit de ne pas passer, ils ont leurs raisons. sont pas bêtes pour nous dire qu'ils nous vont. Nous aussi, nous devons mettre qu'ils participent. Mais si, au moins, moi, personnellement, je voudrais mettre qu'ils participent. Moi, si c'est, depuis qu'ils envoient à l'Assemblée. Mais s'ils décident de ne pas aller, ils ont leurs raisons. En même temps, nous avons un recours, on le dit en minant. Donc, c'est pas, M. Mireille n'est pas venu passer pour dire que l'ANC doit aller ou pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dizier, pour votre intervention. 22, 21, 33, 114. 91 36 ou 315, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Mon nom, c'est Nestor depuis Agoué.
Nestor depuis Agoué. Nestor, allez-y.
Oui, je voulais dire premièrement merci aux journalistes pour les différents angles qu'ils nous ont fait voir en ce qui concerne la journée du 1er juin. Sur le reboisement. Sur le plan politique, je me souviens de la crise des vendeurs de tomates au Grand Marché et la participation du maire de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre, a été déterminante dans la résolution de cette crise. C'est parce qu'il était maire et avec son autorité, il a permis aux vendeurs de trouver une autre place dans un nouveau marché. Mon désir est que l'opposition participe aux différentes directions et participe aux activités dans les différentes institutions de la République. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre réaction au Club de la Presse, 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous nous ouvrons à vous à travers ces deux numéros, 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Oui, bonjour à vous.
Vous savez, je vous dis que vous êtes nos enfants, nos autorités. Quand on va à une élection, c'est pour siéger. Le président Jean-Pierre Favre, quand on prend les partants, après unis, c'est lui qui vient. En deuxième position, c'est. Je l'ai dit, c'est à 2020 là qu'il y a eu problème. Il n'a pas le droit de ne pas saisir. Ou bien d'envoyer quelqu'un. Vous savez, si l'Assemblée, les 108 personnes, le voient pour prendre une décision, ils vont passer à lui. Et s'il est absent, on va lui dire qu'il aille pour après me le mettre à peu. Pourquoi ils ne peuvent pas aller? Ils n'ont pas s'entendre. Aller former le bloc de 5. J'aime le FPP, j'aime aussi l'opposition. Je suis entre vous.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 22-21-33-114. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Patrick.
Patrick, vous nous appelez de quel quartier? Didjolé, allez-y, Patrick.
Bon, j'ai deux questions concernant le refus de l'ANCE ATV au niveau de l'hémicycle. La première, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler de son refus? Secondo, est-ce qu'il serait payé, c'est-à-dire le parti, là, pour son député? Est-ce qu'il aura son salaire? Merci.
D'accord, merci beaucoup Patrick pour vos deux questions. Hein. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est Komi.
Komi, allez-y.
Pour la question de la journée des arbres, je pense que le ministère en question n'a pas encore traité le problème de transhumance. Parce que dans les zones reculées, quand les familles font les efforts pour mettre les arbres en terre, c'est le bœuf qui détruise ça. Donc, en conséquence, je les convie vivement à nous traiter ce problème une fois pour de bon. De la question aussi des animaux domestiques. Maintenant, sur la question politique, moi, je veux bien inviter ceux qui siègent d'Amada Djamango et puis les représentants d'Adi de vouloir nous prouver l'impérativité du député à l'Assemblée. Amada Djamango n'est pas à l'Assemblée pour la DMP, elle est là pour toute la population togolaise. Et ainsi que les deux de l'ADI, ils ne sont pas pour l'ADI, ils sont pour toute la population togolaise.
Puisque ce sont des députés de la nation.
Bien sûr. les programmes de société qu'ils avaient avant d'y aller, on veut que ces propositions puissent aller devant l'hémicycle, qu'on puisse voir le vote mécanique qu'on connaît déjà des 108 pour voir s'ils ne vont pas changer de fusil d'épaule. De l'ancienne assemblée, on a su que les gens n'ont pas eu à faire de propositions. L'exemple qu'ils ont donné en fin de mandat était très amer. On veut voir ces trois-là qui vont siéger au nom du peuple de pouvoir faire mieux. Et pour finir sur la question de la convocation des ministres, le contrôle du gouvernement se fait par les députés. On veut voir aussi ces trois qui siègent au nom de la République togolaise de pouvoir convoquer des ministres et qu'on puisse voir que les 108 ont vraiment refusé que l'État démocratique puisse siéger.
D'accord, merci beaucoup.
Pour ceux qui ne sont pas, je finis par là.
Oui, mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes.
Parce que les gens se sont illustrés 5 ans, le canevas Tipeee ne sied plus. Ils ne seront même pas autorisés à organiser des réunions dans les établissements scolaires. Je ne sais pas comment les gens veulent s'organiser pour 2030. Et c'est vraiment dommage.
D'accord. Merci beaucoup, Komi, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Juste après, Komi, un autre auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est Armand.
Oui, Armand.
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour.
Il faut dire que concernant la journée de l'arbre, l'essentiel n'est pas de planter les arbres, mais de mettre un mécanisme rigoureux dans le suivi de la croissance et de l'exploitation de ces arbres. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? On donne des chiffres, c'est bien, mais il faut aussi tenir compte de, après avoir planté l'arbre, qui sont ceux qui vont faire entretenir l'arbre jusqu'à un certain niveau. Et puis, cette histoire de charbon de bois aussi, il va falloir qu'on puisse, parce que ce sont les arbres qu'on coupe à l'intérieur du pays, c'est vraiment... C'est-à-dire, le phénomène est grandissant. Il va falloir que l'État fasse déploie des solutions innovantes pour essayer de réduire cela.
D'accord.
Revenant sur le côté politique, oui, bon, c'est-à-dire, on sait que chaque parti politique est libre de ses choix stratégiques, mais il est de bon ton, surtout que nous sommes dans un pays, il va falloir que les gens changent un peu de mentalité. Les adversaires ne sont pas des ennemis. Donc, cheminer avec quelqu'un dans une assemblée, ce n'est pas forcément aller là comme victime résignée ou autre. Il faut vraiment représenter la nation.
Merci. D'accord. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît?
Hakim, monsieur.
Hakim?
Oui.
D'accord, vous nous appelez?
Je vous appelle Adi Dogomé.
Adi Dogomé, allez-y.
Bien voilà, je salue tout le plateau. Je suis très honoré de participer à cette émission. Bon voilà, mon premier point, c'est sur la journée de l'arbre. C'est une initiative à encourager, à amplifier, à tout faire pour que cela réussisse. Parce que avec l'avancée du désert, aujourd'hui on remarque aussi que les vents qui souffrent de plus en plus. Il n'y a pas de couvert pour empêcher ces vents-là d'enlever, par exemple, les toits, les panneaux et tout ça. Donc, il va falloir qu'on multiplie cela, quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est sur le plan politique. Moi, je voudrais que, avec tout ce que nos amis de l'ANC disent, qu'ils nous montrent, au moins à Lomé, dans le centre Lomé, quelle vitesse qu'ils ont eu, à part le siège de Jean-Pierre Fabre, où est-ce qu'on les a trichés. Ils n'ont qu'à nous dire. En ce moment-là, on pourra s'exprimer et dire, ah, voilà, on n'a qu'à arrêter de ce cinéma, c'est bon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Hakim, pour votre intervention. 22 21 3314. Michel, je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. 22 21 3314. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
Monsieur Combiani.
Monsieur Combiani.
Oui, je salue tout le plateau.
D'accord, allez-y.
Je veux aussi un peu aborder du côté du CG politique concernant le président de l'ANC. Vraiment, tout le monde était sur le terrain quand même. Il a vu ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, il refuse d'aller chercher, il refuse d'aller siéger ces 9 conseillers régionaux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà le parti majoritaire qui est maintenant à l'Assemblée. Et il croit que c'est eux qui viendront lui donner l'information, ou bien c'est Mme Brigitte Adjamagbo, ou bien M. Hadji qui va envoyer son représentant, ou bien lui-même, pour venir donner l'information au parti ANC. Vous voyez un petit exemple à côté. En 2020, vous aviez vu ce qui s'est passé pour les présidentielles. Et le docteur Mensa Argoumé Kodiopé a son âme aujourd'hui. Et après les élections, il devait devenir le chef de file de l'opposition. Il a dit, n'est-ce que lui l'a remporté, il veut devenir carrément président de la République. Or, il savait que ça ne pouvait pas aller comme ça. Les grandes institutions ont déjà donné les résultats finaux. Maintenant, il dit, n'est-ce que lui n'accepte pas. Tous ceux qui étaient dans son parti-là, il les a noyés. Il y avait les gens qui pouvaient se retrouver au gouvernement, d'autres qui pouvaient se retrouver dans des préfectures, des directeurs de cabinet. Ceux-là, tous, qu'est-ce qu'ils ont gagné dedans? Hein? Et lui-même, aujourd'hui, il est où? Ce que Dieu te donne, il faut prendre et tu lui dis merci, en attendant que demain soit plus meilleur que ça.
Merci.
Si il est allé siéger, ça fera grand plaisir à ses électeurs. Je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup, M. Combiani, pour votre intervention. Et M. Combiani, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau. Uriel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité et sur notre débat ici. Déjà, votre réaction?
C'est la preuve que tous les Togolais s'intéressent à la vie de la nation. Ça, c'est intéressant. Je voudrais juste réagir sur l'intervention de Didier. Didier qui disait que il salue mes propos par rapport à l'ANC parce que en écoutant ce que je disais auparavant, il n'a qu'à nous suivre très bien. Nous ne sommes pas là pour nous pencher sur un ou sur un autre parti politique. Non, c'est pas ça. Ce sont des analyses et ce que nous disons, c'est très objectif. On souhaiterait que ceci soit au lieu de. Voilà, ce n'est pas qu'on a un penchant sur un parti ou un autre. Je pense qu'il m'a vraiment compris. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne pourrais pas dire le contraire. Demander à l'ANC de ne pas siéger, non, je ne peux pas le dire. J'ai bien dit qu'il gagnerait en tout, puisqu'il aurait de l'information à l'Assemblée nationale, il aura tout et tout, donc je me suis justifié. Ça serait un autre parti, je ferais la même chose. Si c'est une URC qui refuserait de siéger avec 708 sièges, je leur dirais demander.
C'est ce qui sera impossible. Quand même.
Jacques,
non, c'est vrai qu'il y a Patrick qui a posé une question, deux questions d'ailleurs. C'est par rapport surtout aux conséquences qui vont découler alors de cette décision de l'ANC. Et aussi, est-ce que si il ne siège pas, est-ce que le parti sera payé? Je pense que là, la réponse est claire.
Non, si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas.
Ça, c'est
vous
clair.
Vous ne venez pas comment. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le règlement intérieur de l'actuelle Assemblée nationale où les retards,
les absences
et tout ça là. Si vous prenez le temps de lire. Je sais que c'est pas encore, c'est au niveau de la cour
constitutionnelle.
Voilà, mais quand même, nous avons eu les fuites, nous avons un peu lu, on a vu, mais ça ne serait pas du tout facile par rapport à l'absence et au retard. Vous savez, ce que nous disons ici, je crois qu'au tréfonds même de M. Jean-Pierre Fabre, cette décision, il a prise peut-être à contre-cœur. Vous savez, quand vous êtes en mouvement.
Oui, il dit même d'ailleurs que c'est une décision du parti.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au tréfonds de lui-même, peut-être que lui, dans sa pensée, les députés devaient siéger. Mais quand vous êtes devant et que Didier ne pourrait pas me démentir ici, vous savez même qu'au temps de Jésus, il donnait la manne aux enfants d'Israël, ils mangeaient. À un moment donné, quand les enfants d'Israël ne trouvaient plus la manne qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que celui qui est devant là, il faut le lapider. Et finalement, effectivement, ils l'ont lapidé. Vous savez, lorsque la foule, vous suivez effectivement les mouvements, il y a toujours ces genres de décisions. On dit souvent que le plat de la vengeance ne se mange pas à chaud. Je crois que c'est une décision. Moi, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'au fond de lui-même, il n'avait pas voulu. Mais comme c'est le parti qui a voulu, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu que la plupart des intervenants ont dit non, il ne faudrait pas que l'ANC dise qu'ils ne vont pas aller. Il faudrait que l'ANC siège. Mais l'ANC a pris sa décision, comme je l'ai dit. Moi, je respecte la décision de l'ANC.
D'accord. Elie?
Oui, à entendre ou à écouter tous les intervenants, majoritairement souhaiter que l'ANC puisse siéger. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La décision est déjà prise. Et il faut quand même que nous rappelions aux auditeurs que les analyses ne sont pas faites contre un parti politique donné.
Justement.
Ce n'est pas par rapport aux considérations politiques. Le débat politique, quand ça se fait dans un cadre de contre-pouvoir, dans un cadre d'adversité, mais pas d'ennemi, c'est beau, c'est élégant. C'est ce qui construit, c'est ce qui fait l'élégance politique. On aurait aimé
se voit même
les voir à l'Assemblée nationale, prendre la parole, défendre un tel projet, donner les arguments, et comme ça, le parti au pouvoir aussi se sentirait, même s'il n'est pas menacé sur le plan de vote, se sentirait quand même avoir des gens capables de le bouger un peu. Mmh. Ça crée de l'émulation au niveau des partis politiques, au niveau des personnalités même, ça crée de l'émulation politique. Et c'est important que à l'Assemblée nationale, nous puissions avoir ces débats-là, quelle que soit la majorité et d'où qu'elle vienne.
D'accord. Didier?
Oui, justement, c'est ce que nous disons les uns les autres. Nous ne faisons que des analyses. Nous ne sommes pas là pour critiquer les décisions des uns et des autres, mais nous analysons en tant que Togolais d'abord, et puis ce qui avantagerait le pays. Est-ce que ce boycott-là de l'Assemblée nationale, il dit qu'est-ce qui va être fait où les gens ont posé des questions, ça veut dire qu'on aura 112 députés à l'Assemblée. Puisque c'est le parti qui est élu, c'est la liste qui est élue, et que la liste, toute la liste, la personne siège. On ne va pas prendre les voix, donner un NC à quelqu'un, à une autre liste. Les élections sont déjà passées. Donc on aura 112 députés à l'Assemblée nationale, et c'est bien dommage.
Alors qu'il faut un nombre impair.
Ben voilà, il faut naturellement un nombre impair à l'Assemblée nationale pour en cas de vote, justement, il faut un nombre impair.
Là aussi, on attend la décision aussi de mettre à Pévon. Sinon, on aurait 111.
Comme tu me tends la perche, je pensais peut-être lui dire bonjour en fin d'émission, mais comme tu le tends la perche, je le dis en même temps. Et je ne crois pas qu'il faille que les FDR commettent cette erreur. Parce que les FDR, au-delà de la personnalité des Pévon, c'est un jeune parti politique. Ils ont été créés, ils ont participé là à leur deuxième élection et ils viennent. Ils avaient eu un ou deux maires, je crois, et quelques conseillers municipaux. Ils ont participé à leur première élection législative. Ils viennent d'avoir un député. Ça va être une erreur politique monumentale pour un si jeune parti politique de dire qu'on boycotte l'Assemblée nationale. D'accord. En suivant le pas de l'ANC.
D'accord, merci beaucoup Didier. Votre note de fin d'émission?
Non, je vais dire bonjour à Maître Apévon.
D'accord, c'est dit. Alors, Uriel, votre note de fin d'émission rapidement?
Oh, une note.
Toujours objective, hein?
Oui, objective, mais je ne vais pas donner une note. Je vais juste attirer l'attention de nos responsables, peut-être qu'ils nous gèrent un peu mal. Non, tu as un peu de temps.
Non, je n'ai plus de temps.
Je veux juste parler de la subvention de l'État à la presse privée. Franchement, dans le cadre des élections, je pense que ce n'est plus bien. Nous en avons fini karma. Les élections, on n'en parle plus. Tout est fini. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette subvention tarde à venir à l'endroit des médias privés. C'est comment tout, on a chanté sur partout que 65 millions ont été accordés dans le cadre des élections. Mais les médias ne l'ont jamais eu. C'est quoi le souci, au fait? C'est quoi le problème? Il faut qu'on nous dise.
D'accord, il faut qu'on nous dise. C'est très important. Jacques?
Non, je crois que la question que le confrère vient de soulever tout à l'heure mérite des réflexions. Et je crois qu'il faudrait que notre ministre, Madame
Kuigan,
voilà, soit interpellée. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens lancent des pics contre elle, contrairement à cette somme. Je crois qu'on a dit aux gens de soumettre ce qu'ils ont fait, les gens ont soumis. Donc il faudrait qu'elle puisse débloquer les fonds.
D'accord, merci.
Je voudrais remercier le ministre, le ministère des, pour le travail, le ministère de l'eau, qu'ils sont en train de faire dans notre région.
Vous voulez parler du général Yak
par rapport au forage que nos populations sont en train de bénéficier.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Élie, votre note de fin d'émission.
5 sur 5 pour.
Non, 5 sur 10.
5 sur 10. Non, non. Alors, c'est 8 sur. C'est 10 sur 10 voilà, pour les auditeurs qui sont allés dans le même sens d'analyse que nous, en estimant qu'il faut créer le débat et il est important que l'opposition siège.
Alors, ceux qui ne sont pas aussi allés dans le même sens que vous, ils n'ont pas 0 sur 10 quand même. Merci beaucoup, chers confrères. Uriel Lenyang, merci à toi. Jacques, merci. Élie Goka, merci à toi d'être passé dans cette émission. Alors, Didier Assogba, merci. D'être passé dans cette émission. Et Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien.